Vous écoutez Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison, un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie. Le balado de la science et de la raison. Alors aujourd'hui, je suis avec Jérémy. Salut Jérémy.
Salut.
Et moi, je suis votre hôte, Jean-Michel Abrassat. Et on va parler du Krav Maga. Parce que Jérémy fait du Krav Maga depuis quelques mois. Et donc, ça va être encore un peu un épisode sur le thème du bullshido. Dans le sens, on dit pas d'emblée directement que le Krav Maga, c'est du bullshido. Mais ouais. on va essayer
un peu de retenue.
Un peu de retenue. Mais Jérémy va nous donner son impression générale du Krav Maga.
Oui, c'est ça. Donc, on va parler de ça. Et puis, il y aura un deuxième thème qui est un peu un thème surprise dont je n'avais pas informé Jean-Michel, qui sera quelques infos sur les arts martiaux historiques européens, parce que j'ai commencé en parallèle avec le Krav Maga à faire des cours aussi d'épée longue, qui est un truc que presque personne ne connaît probablement ici. Donc, les gens qui écoutent, ce n'est pas très connu, mais c'est vraiment très intéressant et très, très chouette. Et je voulais en dire quelques mots. Les arts martiaux historiques européens, ce sera. Après, il y a des liens entre les deux sujets, donc c'est pour ça aussi que je voulais en parler aujourd'hui.
Ouais, ceux qui n'ont pas écouté nos précédents épisodes sur le sujet, bon, on parle régulièrement du bullshido, mais juste pour dire que moi, je suis ceinture noire d'aïkido et que je fais actuellement de la boxe thaï avec de la lutte, un mix des deux, quoi. Mm. Ça, ils savent un peu le type d'entraînement qu'on a.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a fait déjà des épisodes là-dessus avant pour en parler. Alors, peut-être historiquement, pour rappeler un peu, c'est vrai que le dernier épisode où on en a parlé, je pense que c'était avant que je commence mes cours de Krav Maga, ou au tout début, je ne sais plus. Donc, pour rappeler un peu le parcours aussi, moi, j'ai été faire un peu de boxe thaïlandaise pendant la période de vacances, pendant les 2 mois de vacances, parce que toutes les salles de Krav Maga où je voulais potentiellement aller, elles étaient toutes fermées. Et donc, j'ai fait un peu de boxe thaï pendant un mois et demi. Et après, depuis septembre, donc, je suis dans un club de Krav Maga à Jette. Et donc, voilà, qui est un club qui appartient à la plus grosse fédération ici en Europe, qui est Krav Maga Global, et qui est assez représentative, je pense, du Krav Maga, en tout cas en Europe, même si ce n'est pas forcément, on en parlera aussi, ce n'est pas forcément ce qui existe beaucoup en Amérique ou dans certains autres pays. Donc parfois quand il y a des vidéos avec des gens qui parlent du Krav Maga et qu'ils ont vu des cours dans leur coin, ça peut parfois assez fort être assez différent d'une région à l'autre en fonction des fédérations, en fait. Mais ça, on va en parler un petit peu, quoi. Que dire, je vais peut-être faire un tout petit retour d'abord par rapport à la boxe thaï, parce que il y a un lien aussi entre les deux. Donc moi, ma perspective à la base, c'était pas, je suis pas fondamentalement un passionné spécifiquement du Krav Maga, ou j'avais pas envie de devenir un expert du Krav Maga, mais mon optique, c'était plutôt self-défense. Et donc, dès le départ, moi, j'étais un peu dans une optique de mixer plusieurs choses et pas de faire pendant 20 ans une approche spécifique. Ça ne m'intéressait pas particulièrement. Et du coup, comme les conseils un peu partout de tous les gens qui étaient un peu expérimentés là-dedans, c'était de combiner plusieurs choses. C'est pour ça que j'ai été faire un peu de boxe thaïlandaise, parce que je me suis dit, j'aurai un peu des bonnes bases pour apprendre un peu les trucs fondamentaux au niveau des mouvements, au niveau de comment on frappe, etc. Avant d'aller faire du self-défense, où c'est plus des techniques d'un contexte spécifique, mais qui ont quand même recours finalement aux méthodes qu'on trouve dans la boxe thaïlandaise et dans d'autres disciplines. Et donc j'ai fait ce parcours-là. Alors, je suis assez content, parce que c'est vrai que les cours de boxe thaï, on apprend beaucoup. J'y ai trouvé vraiment ce que je venais chercher, l'apprentissage un peu des bases, d'avoir quelqu'un qui vient corriger toutes les erreurs que tu fais. Ça, c'est plutôt chouette. Et comme on passe quasiment tout son temps là-bas à bosser sur des choses de base et à les répéter à l'infini et à faire du sparring après avec, bah, c'est vrai qu'on apprend assez vite et on a vraiment l'impression de progresser beaucoup avec ces cours-là. Voilà, donc j'ai trouvé ce que je venais chercher. Par contre, c'est vrai que le côté loisir, entre guillemets, ou le côté fun, ça, par contre, je n'ai pas vraiment trouvé ça dans la box type parce que les cours sont tellement durs qu'en fait, voilà, il me fallait 3 jours pour récupérer à chaque fois. Je finissais sur les genoux à la fin du cours. Et c'est le niveau le niveau de cardio nécessaire et d'entraînement physique au niveau musculaire, c'est très, très, très dur. Et donc, voilà, c'est clair que ça ne convient pas à tout le monde. Et c'est des salles, enfin, en tout cas, là où moi j'étais, il n'y a personne qui a plus de 40 ans dans ces salles, quoi. Donc, je crois que je devais être quasiment le plus vieux dans la salle, alors que, bon, voilà, j'ai 39 ans, là. Donc, c'était chaud au niveau du rythme. Et le premier cours, j'ai cru que je n'allais même pas survivre au cours entier, quoi, tellement c'était dur, tellement je me suis retrouvé assez vite à avoir plus aucune réserve au niveau musculaire. Et il y a vraiment dans ces cours un état d'esprit de ce dépassement de soi constant. Et donc, du coup, t'as quasiment pas de pause, les gens ne parlent pas parce que tout le monde est en train de cracher ses poumons pendant 1 heure. Et c'est vraiment très, très dur. Et voilà, donc, voilà, c'était intéressant, mais je ne me voyais pas faire ça plus longtemps parce que moi, je cherchais quand même aussi un truc un peu convivial où je pouvais aussi m'amuser. Et là, pour moi, c'était plus du travail que de l'amusement, quoi. Mais voilà, j'étais content de le faire pour avoir quelques bases. Donc après ça, je suis parti donc, à un club de Krav Maga. J'ai d'abord été à un club de Krav Maga XL, qui n'était pas dans les fédérations, qui est un club un peu indépendant. Et là, je n'ai pas trop aimé la mentalité parce que c'était des cours qui étaient donnés par des policiers, enfin un policier et puis des gens qui avaient fait des sports de combat. Et en fait, ils avaient exactement la même mentalité que dans un cours de boxe thaï, c'est-à-dire qu'il fallait tout le temps être dans le dépassement de soi au maximum. Tout était très, très dur. Les gens finissaient vraiment très, très crevés tout le temps. Et pareil, il n'y avait personne de plus de 40 ans dans la salle. Il n'y avait presque pas de femmes. Donc, c'était vraiment très, très dur. Et il y avait tout le temps cette pression aussi de jamais s'arrêter. Donc, si à un moment, tu n'arrives plus à continuer l'exercice, tu dois continuer d'une autre manière, mais tu ne peux pas t'arrêter, quoi. Vraiment, il y a cette philosophie de si tu t'arrêtes, ce n'est pas bien, ça perturbe le groupe, enfin voilà. Donc, le côté convivial, il est vraiment absent de ce type de mentalité, enfin pour moi en tout cas. Et voilà, donc là, j'ai été 2 cours et puis je n'ai pas continué. Et après ça, je suis arrivé dans une salle à jette qui s'appelle Krav Maga 217, et qui est une salle qui fait partie de la fédération Krav Maga Global, qui est la plus grosse fédération en Europe. C'est une fédération qui est gérée par une des personnes qui gérait déjà le Krav Maga mondial à l'époque où son fondateur était encore en vie. Voilà, donc il y a une sorte de lignage direct par rapport à la naissance du Krav Maga, parce que c'est une discipline qui est assez récente, hein, donc ce n'est pas un truc qui existe depuis 150 ans, c'est un truc de deuxième génération, entre guillemets. Et voilà, donc je suis arrivé là, et là j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Ils avaient plus la philosophie de permettre à un peu tout le monde de suivre les cours, enfin tout le monde. Ça reste un bon exercice physique, donc c'est quand même fatigant, il faut quand même être capable de faire des exercices physiques quand même assez intenses. Mais il y a des gens qui ont plus de 40 ans dans la salle, il y a des femmes, c'est plutôt mixte. Et donc il n'y a pas cette mentalité de il faut être tout le temps dans le dépassement de soi, ça doit être très dur physiquement. C'est moins poussé, donc c'est un bon exercice, mais c'est moins poussé, donc il y a moyen de le faire à fond et d'être assez crevé, mais on peut le faire aussi en mode plus relax, et c'est tout à fait faisable, quoi. Donc chacun adapte un peu à son rythme. Il y a des gens qui font les cours de manière très intensive, il y a des gens qui font les cours de manière assez molle, honnêtement, mais voilà, au moins ça permet à tout le monde d'être là. Et voilà, donc... les cours aussi sont organisés d'une manière à ce qu'il n'y ait pas trop de risque de blessure. Voilà, ce qui n'est pas la même chose dans les autres salles. Enfin bon, ce n'est pas qu'il y a plein de blessures, hein, il n'y a pas tant de blessures que ça. Moi, en un mois et demi de boxe thaï, je ne suis pas rentré chez moi une seule fois avec des blessures. Mais disons que tu te prends des coups quand même assez régulièrement, même si ce n'est pas des coups qui créent des blessures. C'est quand même se prendre des coups, donc ça génère quand même un certain stress, une certaine adrénaline. Ici, les cours de Krav Maga, c'est différent. Il y a beaucoup de frappes sur des boucliers ou des pattes d'ours. Donc là, on ne frappe pas les gens. Et quand c'est des frappes directes, souvent elles sont faites sans toucher l'adversaire, donc devant l'adversaire en fait. Hein, tu frappes devant le visage. Voilà, ce qui permet à tout le monde de participer, mais ce qui pose aussi certains problèmes. On va pouvoir en parler un petit peu. C'est évidemment frapper dans le vent devant quelqu'un. Physiquement, c'est pas la même chose que frapper sur quelqu'un en fait. Hein. C'est pas juste une question de t'arrêter, de frapper moins loin, mais les caractéristiques physiques du mouvement sont pas les mêmes en fait. Et ça, c'est un problème, mais qu'on trouve pas que dans le Krav Maga, hein, t'as ça dans d'autres disciplines aussi.
Oui, par rapport à ce que tu disais, juste pour que réagir, c'est enfin, juste, il y a pas de blessure. Faut pas oublier quand même que les impacts répétés à la tête, ça génère quand même toujours des micro-lésions cérébrales. Donc,
tout à fait.
Après, ça dépend à quel... Même si... À quel, enfin, ça dépend de la répétition, enfin, l'intensité, la force des frappes, etc. Mmh. Mais bon, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de blessure. Quoi. Enfin, c'est toujours le problème que les blessures au cerveau, on les sent.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas de blessure... tu ne te reviens pas avec des bleus ou des coupures, c'est ça que je voulais dire. Mais effectivement, si c'est très long terme et répété, tu as quand même des chocs à la tête. Quoi. Ça, c'est...
Et oui, pour l'intensité des salles, bon, c'est vrai que je pense que ça dépend aussi. De mon expérience à moi, ça va dépendre aussi si la salle a une optique plus de compétition, des compétiteurs. S'il y a des compétiteurs, à ce moment-là, forcément, l'intensité, le coach, il règle l'intensité pour ses compétiteurs parce que son but, c'est de gagner des compétitions.
C'est ça.
Mais alors, ça peut vraiment avoir un effet délétère sur les gens qui ne sont pas là pour la compétition. Tandis que les salles qui sont un peu moins axées compétition peuvent être plus accueillantes. Moi, je pense que ça peut varier aussi d'une salle à l'autre en fonction. Et ce genre de phénomène aussi se rencontre dans d'autres sports comme le judo, etc. Si on est dans un club de judo très axé compétition versus moins axé compétition, c'est une dynamique qui est assez bien connue. Ouais.
Ouais. Après, la différence avec le Krav Maga, c'est qu'il y a il n'y a quasiment pas de compétition de Krav Maga. Bon, récemment, il y a des gens d'une fédération qui ont commencé à créer une petite compétition, mais globalement, les gens qui font du Krav Maga ne font pas de compétition puisque c'est du self-défense. Donc, ils ne vont pas sur un ring, ils ne vont pas faire des rounds face à quelqu'un. Donc, en soi, la dynamique est quand même un petit peu différente par rapport à ça, je trouve. Mais bon, c'est vrai que, comme tu dis, ça varie d'une salle à l'autre en fonction de la mentalité des gens et d'où ils viennent, quel est leur parcours. Clairement, la première salle où j'ai été, c'est tous des gens qui avaient fait des sports de combat et ils avaient cette mentalité de il faut être capable de faire presque du ring et de monter sur un ring, même si tu veux faire du self-défense, quoi. Ce qui, voilà, moi, me paraissait un peu particulier quand même, un petit peu radical, mais voilà. C'est clair que si, pour des gens qui veulent apprendre du self-défense pour un contexte, on va dire entre guillemets professionnel, hein, par exemple, si tu es agent de sécurité, sorteur, policier, etc., clairement, moi, je conseillerais sans aucun doute d'aller dans une salle comme ça où il y a un côté plus sport de combat qui est mis en avant et où l'intensité est plus élevée, où les coups sont plus portés. Parce que là, tu as un besoin quand même de travailler plus durement pour pouvoir en faire quelque chose parce que tu es dans des contextes dans ton boulot qui le demandent. Mais après, pour quelqu'un qui n'est pas dans ce contexte-là et qui, pour la plus grande probabilité, ne fera jamais usage de ces techniques, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, comme la plupart des gens, je trouve que c'est plus difficile à justifier de pousser vraiment les gens très, très fort. Parce que ça fait fuir à ce moment-là plein de personnes qui pourraient en bénéficier et qui ne vont peut-être pas être des grands athlètes, mais qui pourraient quand même bénéficier de cet apprentissage. D'autant plus qu'une des caractéristiques vraiment uniques du Krav Maga, enfin en tout cas des cours d'autodéfense, même si c'est en général le Krav Maga, mais il y a d'autres cours d'autodéfense qui existent, c'est qu'il y a aussi un travail au-delà des techniques, au-delà de comment est-ce qu'on frappe, comment est-ce qu'on attrape, comment est-ce qu'on bloque. Il y a un travail sur le reste qui n'est pas du combat, c'est-à-dire comment est-ce qu'on regarde l'environnement, comment est-ce qu'on évite de se mettre en danger, comment est-ce qu'on lit les réactions de l'autre pour savoir quand est-ce qu'il va devenir un danger ou pas, à quelle distance on peut fuir ou à quelle distance on ne pourra pas fuir si on se fait attaquer, comment est-ce qu'on désamorce un conflit. Enfin, tout ça, c'est aussi des trucs qui sont abordés. Et ça concerne tout le monde parce que c'est vraiment des choses qui peuvent... être utile à tout le monde, pas forcément parce que toi, tu vas devoir te défendre, mais aussi à certains moments, si toi, tu veux défendre quelqu'un d'autre qui te fait agresser. Voilà, donc là, je trouve qu'il y a vraiment un bénéfice à permettre à un public plus large d'assister à ces cours, même si les gens ne sont pas capables de suivre un rythme d'athlète vraiment très, très dur et qui viennent pour un truc convivial, que leur pratique est un peu molle, etc. Ben, ils apprennent quand même quelque chose. Et comme souvent, on peut éviter la plupart des combats quand même en self-défense, ça leur sert quand même, parce qu'en fait, ils ne vont pas avoir besoin de faire... 5 minutes de combat dans la rue contre quelqu'un, ça ne leur arrivera probablement jamais. Donc voilà, je trouve qu'il y a un entre-deux, et souvent on est un peu dans les extrêmes, soit c'est très très dur, soit c'est plutôt mou, il n'y a pas de sparring, et ça c'est un peu dommage. Et voilà, donc pour revenir un peu sur ce qu'on fait dans la salle où moi je suis.
Une seconde, parce que ouais, je vais quand même réagir.
Oui, vas-y. Ouais.
De toute façon, ça ne nous arrivera jamais. Enfin, ça leur arrivera probablement jamais. Bon, ça dépend évidemment dans quel milieu on vit, etc. Oui. L'environnement où on est. Oui, donc il y a Yann Abernathy là, qui a un diagramme de Venn qui est super intéressant, où il y a un cercle qui représente les arts martiaux. Bon, là, l'aspect artistique finalement, comme les katas de karaté par exemple. Ouais. Donc c'est la beauté du geste, hein, etc. Mm-hmm. Et puis alors dans le diagramme il y a aussi les sports de combat, donc justement la compétition, gagner des compétitions, mm-hmm. où certaines actions qui seraient efficaces en combat réel vont être interdites parce que les règles les interdisent, parce qu'elles sont soit trop dangereuses à exécuter en compétition ou parce que simplement dans ces règles-là, on ne peut pas faire ça. Quoi. C'est comme ça, c'est ces règles définissant la nature du sport qu'on pratique.
Ouais.
Et puis la troisième, c'est la self-défense. Et alors, évidemment, on peut avoir des endroits d'intersection entre les trois cercles, mais ça vaut vraiment la peine de, même au sein d'une même pratique, toujours se dire dans quel cercle je suis en train de me trouver. Est-ce que l'exercice que je suis en train de faire se trouve juste dans une des catégories, ou bien à l'intersection de deux catégories, ou bien idéalement à l'intersection des trois catégories. Mais savoir, en gros, ce que j'aime bien dans l'approche de Yann Abernathy, qui est donc un karatéka anglais ou irlandais, je ne sais plus, c'est qu'il dit il n'y a pas à avoir un jugement négatif sur si vous êtes dans l'art ou si vous êtes dans le sport. Mais simplement, le problème, c'est que les gens ont tendance à mélanger, à ne pas savoir dans quelle zone du diagramme ils se trouvent, hein, et à croire qu'ils sont dans une zone alors qu'ils ne sont pas dans la bonne zone. Et aussi, par rapport à ce que tu disais, un autre commentaire, c'est que finalement, pour moi, la self-défense, je rejoins ton sentiment en fait, hein, ça devrait être largement pas de la confrontation physique. Ouais. Et la self-défense, c'est quelque chose auquel on peut se former en lisant des livres, en voyant des vidéos YouTube, parce qu'il y a beaucoup de connaissances théoriques à avoir au final. Et souvent, malheureusement, cette partie théorique de préparation à l'environnement, tout ce qui est désescalade, etc., elle est négligée, ou on privilégie toujours la... Enfin, non, il ne faut pas dire toujours, mais je veux dire, la plupart des profs mettent l'accent sur la confrontation physique, alors que c'est pas ça. C'est une autre façon de dire, c'est de mon opinion, c'est que si vous inscrivez à un cours de self-défense et que le prof passe principalement du temps à vous expliquer comment gérer la composante physique du combat, ce n'est pas réellement un cours de self-défense qu'il est en train de vous donner. Hein, c'est vraiment problématique. En gros, comme tu disais, quand le combat physique, l'altercation physique commence avec un adversaire, dans le fond, c'est que la self-défense, elle a déjà échoué à ce moment-là. Mmh. C'est que,
ouais, c'est ça.
Mais alors, là aussi, si vous pratiquez des disciplines par exemple, si on prend un art martial comme l'aïkido, il n'y a absolument rien qui n'est dit sur la self-défense, comme on vient de la définir. Et dans mes entraînements de boxe thaïlandaise ou de lutte, il n'y a non plus rien du tout qui est dit sur la self-défense. Vous voyez, parce qu'on est soit dans un art martial, soit dans des sports de combat. Et ce n'est pas une critique, ce n'est pas le lieu. Mais il ne faut pas s'imaginer que si on fait ces choses-là, on fait de la self-défense. Et souvent, souvent, un des problèmes du bullshido, c'est ça, c'est que les profs vont dire je vous apprends à vous défendre. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce qu'ils nous apprennent. Ouais. Certains des youtubeurs qu'on aime bien, ce qu'ils disent, c'est peut-être exagéré. Je prends des prudences rhétoriques, mais je ne trouve même pas que c'est totalement exagéré. Mais ils disent les profs d'arts martiaux sont généralement les pires enseignants de self-défense qu'on puisse trouver.
Mmh. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils induisent leur public en erreur, finalement, hein, en leur donnant l'impression qu'ils peuvent se défendre avec les trucs. Alors, ce n'est pas pour autant que ce qu'il y a dans la pratique n'est pas utile en self-défense, mais si tu n'apprends pas les ajustements nécessaires pour l'utiliser dans un autre contexte, bah, ça ne peut juste pas fonctionner, en fait. Et ça, les gens ne se rendent pas compte, parce que si tu n'as jamais pratiqué autre chose, en fait, c'est impossible de se rendre compte. Tu n'as jamais l'occasion de tester dans la réalité. Donc, en fait, tu restes dans un fantasme comme ça de si un mec m'attaque dans la rue, je vais lui faire un combo de karaté que j'ai fait 3 millions de fois dans mon dojo et il va être par terre. Et bon, voilà. C'est pas... Après, si tu fais ça sur ton voisin bourré qui ne connaît rien en sport de combat, peut-être que ça fonctionnera, mais c'est pas dit, c'est même pas garanti, quoi.
Mais souvent, les sports de combat et les arts martiaux, même quand ils présentent des affrontements ou du sparring, c'est des affrontements, c'est de la violence consensuelle, hein, on appelle ça. Mmh. Et donc, c'est toujours deux personnes, l'une en face de l'autre, qui savent qu'ils se font... Et donc, ça ne correspond pas à une situation de self-défense. Une situation de self-défense, il y aura plusieurs attaquants, vous ne serez pas prévenu à l'avance de l'attaque, vous ne serez pas en garde au moment où le mec va vous attaquer. Vous n'aurez pas un super espace pour vous descendre, là, un grand tatami pour vous déplacer. Il va y avoir des tables, des chaises... Ouais. Et tout ça, en fait, ces disciplines-là ne préparent pas à ça.
C'est ça, tout à fait. Alors, dans les points que tu as évoqués, il y a pas mal de choses qu'on trouve quand même dans le Krav Maga. Donc ça, c'est le côté positif du Krav Maga. Effectivement, on travaille majoritairement sur les techniques. Il y a pas, ça manque un peu du côté, parfois, purement psychologie du combat. Mais là, je pense que c'est parce que les profs ne sont simplement pas compétents pour le donner et que, bon, voilà, ils n'y connaissent rien. C'est pas leur discipline, mais il y a toujours quand même, souvent dans les exercices, il y a toujours une pensée sur ok, qu'est-ce qu'on fait après quoi, qu'est-ce qu'on fait avant, dans quelle situation on est, et il y a toujours l'idée de après, une fois qu'on a fait quelque chose, il faut pouvoir partir. Donc l'idée des techniques ou des attaques qu'on fait, c'est toujours de pouvoir partir après. Et ça, c'est vraiment très présent. Et il y a plein d'enchaînements où on doit physiquement dans l'exercice partir vers la sortie après les techniques. Et il y a plein de mises en situation aussi qui sont faites. Par exemple, pour le travail sur les couteaux, puisque le Krav Maga met vraiment très fort l'accent sur la défense contre les armes, principalement avec des couteaux ou des bâtons. Les défenses au couteau, il y a plein de mises en situation qu'on fait dans les exercices. Donc, une fois qu'on a vu un peu les techniques de base pour se défendre face à un couteau, en fonction de la distance, en fonction de où vient la frappe, est-ce que ça vient du bas, est-ce que ça vient du haut, à quelle distance est l'adversaire, etc. On a pas mal de mises en situation, par exemple, où tu mets les gens contre un mur comme s'ils étaient un distributeur de billets, et là, ils doivent... Il y a quelqu'un qui les menace ou qui les appelle derrière eux, et quand ils se retournent, le type a un couteau, mais tu ne sais pas à quelle position il va être, tu ne sais pas à quelle distance il va être, et tu dois réagir à ce moment-là. Il y a plein de mises en situation comme ça qui visent à mettre en pratique tous les types de distances et tous les types de direction de frappe, de hauteur de frappe avec les couteaux, et aussi parfois avec plusieurs adversaires. Et bon, une fois que tu as vu un peu les bases, on fait des exercices qui sont non scriptés. Donc, où tu ne sais pas ce que les gens vont faire, en fait. Ils ont le choix entre, je ne sais pas moi, 7, 8, 9 techniques, et ils t'attaquent avec. Alors, évidemment, bon, ils ne t'attaquent pas comme si c'était un vrai attaquant. Il n'y a pas la force ou la vitesse qu'il y aurait en réalité, mais au moins, ça pratique quelque chose qui est non scripté, et tu dois mettre en pratique la défense adéquate en fonction de ce que les autres font, et ça, c'est plutôt bien, quoi. Après, le gros manque là-dedans, Et c'est une critique qui est faite, hein, je pense aussi de temps à autre, c'est que si tu te contentes de pratiquer, bon, en général, utiliser un couteau en plastique, mais en fait, un couteau en plastique, bon, si tu le mets contre la gorge et que tu dois réagir, il n'y a pas de risque particulier. Par contre, si tu commences à frapper, en fait, un couteau en plastique, c'est quand même déjà assez dangereux, en gros, parce que, OK, tu te prends un coup, si ce n'est pas trop fort au niveau du torse, ça fait un peu mal, mais ce n'est pas très grave. Par contre, au visage, bah, ça ne va pas, quoi. Du coup, ce que les cours font, c'est qu'ils limitent les frappes, ils enlèvent les frappes au visage, souvent des exercices. Quand c'est en haut, tu poses le couteau ou quoi, mais tu ne tapes pas à la tête. Donc déjà, tu perds une partie du truc et les gens frappent aussi moins fort. Et à ce moment-là, de nouveau, on est dans des types de mouvements qui sont plus ceux qui existent vraiment dans la réalité. Alors, pourquoi est-ce que c'est différent ? C'est parce que si on frappe quelqu'un, mais sans mettre de force, ou sans mettre de vitesse, mais vraiment la vitesse qu'on mettrait si on veut vraiment taper quelqu'un, la physique n'est plus la même, en fait. Quand tu bloques un coup, bah, ça n'a plus le même impact. Le bras avec lequel tu vas bloquer, bah, s'il n'y a pas énormément de force, bah, en gros, ton bras va arrêter le mouvement. Tandis que s'il y a beaucoup de force, bah, c'est déjà pas pareil. Ton bras, il va peut-être partir comme ça. Et c'est en général un combo. Donc, il n'y a pas un coup et puis les gens s'en vont. Ils mettent un coup, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et tu ne sais pas ce qu'ils vont faire. Et donc, quand on pratique comme ça d'une manière assez molle, c'est bien pour apprendre la base de la technique, je trouve. Mais une fois qu'on a la base de la technique, moi, le sentiment que j'ai vraiment maintenant, qu'on a quand même fait beaucoup d'exercices au couteau, parce qu'en gros, 60% des cours qu'on fait, c'est de la pratique au couteau, en gros, sur les 5-6 mois que j'ai fait ici. Il y a un moment, quand tu as un peu fait à peu près toutes les distances, tous les angles, machin, et que tu répètes encore les mêmes trucs, tu as l'impression assez vite que tu ne progresses plus, en fait. Et en fait, qu'est-ce qui manque là-dedans ? Ben, c'est une pratique en fait, avec des protections où on va taper de manière réaliste, en gros. Comme ce qu'on fait un peu plus en boxe, par exemple, ou avec les gants, on peut déjà taper un peu plus vite. Bon, on ne peut pas taper hyper fort, mais on peut taper vite, c'est déjà quelque chose. Ici, les gens tapent ni vite ni fort. Du coup, c'est encore plus éloigné d'un truc réaliste. Et ça, je pense que c'est problématique. Et parce que quand tu vois des vidéos où il y a des gens qui font des tests de défense au couteau avec de l'équipement, ben là, tu as un truc qui ressemble à quelque chose. Là, tu peux vraiment y mettre la force et la vitesse et tu vois qu'est-ce que les gens arrivent à faire en étant très expérimentés. Tu vois combien de coups ils arrivent à bloquer, combien de coups ils n'arrivent pas à bloquer. Tu vois une vraie défense au couteau réaliste. Et ça, nous, on ne fait pas ça. Parce que pour faire ça, il faudrait un énorme matériel. Et la plupart des salles, en fait, n'ont pas ce matériel. Ils ont juste des trucs de base. Et donc, en fait, ils diluent la pratique pour pas blesser les gens, quoi. Et ça, c'est vraiment un gros problème, je trouve.
Oui, donc tu parlais de s'enfuir, peut-être rappeler, je crois qu'on en avait parlé dans le dernier podcast, hein, souvent les gens disent, ouais, si je me, en cas d'agression, je vais juste m'enfuir, comme si, en fait, s'enfuir, c'est vachement dur, hein. Il faut imaginer réellement que vous soyez agressé par quelqu'un qui veut vous faire du mal physiquement. Alors, votre cardio, il est comment ? Vous faites du jogging tous les jours ? Non seulement du jogging, mais du sprint, puisque la personne va vous, au moins une personne va vous courir derrière.
C'est vachement dur, ouais. Les gens n'imaginent pas.
Non, les gens n'imaginent pas. Hein. Il y avait quelques youtubeurs qui s'intéressent à la self-défense, qui avaient testé. Vous pouvez faire ça, hein, si vous voulez. Hein. Vous prenez un copain, vous allez dans un parc et vous mettez devant lui et vous lui dites « Maintenant, tu dois me rattraper. » Vous partez en courant et voyez combien de mètres vous allez pouvoir faire avant que la personne soit sur vous. Ouais. Hein, et à ce moment-là, comme on dit toujours, vous allez quand même devoir vous battre, mais vous serez fatigué d'avoir sprinté à fond à ce moment-là.
Ouais, c'est ça. Il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que en général, quand tu as quelqu'un qui te menace avec un couteau et que tu le vois, ça veut dire qu'a priori, tu es tourné vers lui. Donc, pour courir, il faut aussi se retourner parce que tu ne cours pas vers l'adversaire. Donc, le temps de se retourner, ça prend déjà beaucoup de temps. En fait. Et ça, nous, on a fait des exercices là-dessus. Et tu vois, si tu as un mec à 2 mètres de toi, pour t'en courir, ce n'est pas facile. Hein, franchement, sans te faire poignarder dans le dos.
Oui, c'est ça. En plus, tu tournes le dos à quelqu'un qui a une arme. Voilà. Les gens ne se rendent pas compte. Hein.
Voilà, c'est ça. Et ça, pour le coup, pour ça, le Krav Maga, ça marche bien parce que des exercices comme ça, tu en as plein et ils te permettent vraiment de réaliser ce qui est possible et pas possible. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Et un truc que ça m'a vraiment apporté, moi, c'est que le fait d'avoir fait un peu de... Bah, d'avoir fait Krav Maga, mais aussi un peu de boxe et d'avoir fait un peu de sparring. Bon, les gens ne le savent pas peut-être, mais on a fait quelques fois du sparring tous les deux aussi, plus kickboxing ou un peu de lutte. Ben ça donne une impression de ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible, en fait, et de un peu la réalité des choses. Et du coup, moi, ça m'a donné un beaucoup plus de respect pour le danger que j'en avais avant. Quand j'étais plus jeune, j'ai plusieurs fois failli être dans des bagarres. J'ai eu la chance que ça n'a jamais dérivé jusque-là, mais des situations où je me mettais un peu en danger, en fait. Pas que j'allais agresser les gens, hein, c'est pas ça, mais où je me mettais en danger. Et quand tu ne sais pas ce qui est possible ou pas, tu ne sais pas non plus comment te positionner, tu ne sais pas quand partir, quand rester, tu ne sais pas ce que tu peux te permettre de faire ou pas. Et donc, en fait, tu fais un peu n'importe quoi, ou tu frises et tu fais rien, ou tu t'enfouis directement alors que c'est dangereux, ou tu réponds aux gens de travers parce que tu es en colère et que tu ne sais pas te contrôler. Enfin, il y a plein de réactions possibles qui ne sont pas bonnes. Et le fait d'avoir pratiqué un peu tout ça, d'un côté, maintenant, je me dis que si quelqu'un qui n'a aucune formation en sport de combat dans la rue essaie de me taper et que je suis prêt, j'aurai une bien meilleure chance de réagir qu'avant et une bonne chance de pouvoir me défendre. Autant j'ai beaucoup moins envie qu'avant de le faire et en voyant un peu tous les dangers qu'il y a et aussi toutes les choses que tu ne peux pas contrôler parce que, en fait, de nouveau, quand tu fais un peu de sparring, tu vois que les choses, elles ne se passent jamais comme ce que tu imagines. Ce n'est pas des enchaînements où tu fais 1, 2, 3, 4 parce que tu vas à un cours et on te dit « Ah oui, tu fais deux coups de poing et puis un coup de pied dans les génitales et l'adversaire, il est par terre. » Non. Peut-être que ça marche comme ça. Hein. Si le type n'a pas bougé, il est resté comme ça, paralysé, oui, ça marchera. Mais en réalité, il y a plein de situations où ça ne se passe pas comme ça parce que les gens, ils sont en train de bouger et ce n'est pas des statues. Et donc ça on ne se rend pas compte en fait, quand on n'a pas fait du sparring, peu importe les disciplines, mais on ne se rend pas compte de ça. Et quand on expérimente un peu ça, on se rend compte que même si on a beaucoup pratiqué des techniques qui sont dans l'absolu efficaces, y a plein d'imprévus et il y a plein de trucs qu'on ne contrôle pas et c'est dangereux en fait. Et même si tu as fait des années de boxe et tu as un type qui vient te taper dans la rue et qui n'est pas très bon, il va peut-être faire un mouvement totalement bizarre que tu n'as jamais vu et qui va faire que tu vas mal réagir et te prendre le coup quand même. Et ça, c'est une possibilité aussi. Donc, voilà, l'avantage du Krav Maga aussi, c'est que ça te donne une conscience du danger et du coup, tu as plutôt envie de l'éviter et pas de faire le malin parce que tu as fait des cours de boxe et que tu te dis, oh, c'est un type, c'est pas du tout comment frapper et qui vient m'emmerder, je vais me mettre KO en moins de deux. Peut-être que c'est le cas hein, pour certaines personnes, mais tu n'as pas envie d'essayer. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon sentiment. Je ne sais pas si toi, tu partages un peu cette impression-là aussi. Mais...
Oui, enfin, sur cette question. Enfin, pour moi, oui. Hein. Moi, j'ai le même sentiment que toi. Maintenant, je pense qu'on n'est peut-être pas la personne typique qui pratique ce genre de discipline. Il peut y avoir un peu de sens d'hypermasculinité.
Oui, ça, c'est vrai.
Avec des gens qui s'entraînent. Voilà. Je ne suis pas sûr que notre ressenti soit particulièrement le plus typique. Hein.
C'est vrai.
De toute façon, il y a des vidéos YouTube aussi. Par exemple, une ceinture noire aux États-Unis, une ceinture noire de BJJ avec un gars qui a une arme à feu devant lui et mm-hmm. il décide de faire du jujitsu avec lui et puis il s'est fait tirer dedans. C'est quasiment trop de confiance. Je relativiserais le fait que ce ressenti est partagé par tout le monde. Quoi, mais mm-hmm. Il y a des profils très, très variés. Mais par contre, je pense que le point le plus important que tu as abordé, c'est. Pour le bullshido, c'est ça, c'est un red flag qu'il faut vraiment identifier en termes de self-défense pour la composante. Donc, on a déjà fait un des red flags, c'est que le prof ne discuterait pas des étapes préliminaires d'avant l'affrontement physique, c'est un des problèmes. Et le deuxième, c'est quand l'affrontement physique est uniquement enseigné sous forme de scénario, avec le partenaire qui fait une attaque et puis il freeze, et puis toi tu fais un enchaînement derrière avec l'autre qui est finalement dans du slow-mo, enfin voilà, son temps s'est arrêté, il ne peut plus bouger, et toi tu fais juste ton truc sans résistance de sa part. Et ça paraît peut-être un peu absurde pour les gens qui ne pratiquent pas d'arts martiaux, s'il y en a qui écoutent ça, mais c'est vraiment très commun comme méthode d'entraînement, bizarrement. L'aïkido, c'est que ça, pratiquement. Enfin, c'est que ça. Hein. Donc, le partenaire fait une attaque, et puis l'autre peut faire son truc après, sans vraiment une résistance. Enfin, bon, les aïkidokas qui résistent, mais bon, il n'y a pas une résistance chaotique qui se met en place.
Ouais.
C'est vraiment... Ouais. Alors évidemment, ça donne une impression de surpuissance et ça donne l'impression que la technique fonctionne, mais forcément, si la personne en face est figée dans le temps, n'importe quelle technique fonctionnera dans le fond.
Oui.
Ça devient très très dur de ne pas avoir une technique qui fonctionne. Et donc, ça crée vraiment l'impression que les techniques fonctionnent, alors qu'en réalité, devant un adversaire qui même opposerait une résistance modérée à la technique, mais résistance qui serait chaotique, donc pas du tout quelque chose de préprogrammé à l'avance, elle, ça réduirait la technique à néant. Et donc là, oui, apparemment, dans ton club de Krav Maga, parce qu'il y a des clubs de Krav Maga d'après YouTube, dans la vidéo de Rockast, rappelle le titre, je ne sais pas si on l'a déjà
mentionné. Oui, donc il y a eu une vidéo tout récemment, en fait, d'un channel qui s'appelle Martial Arts Journey, qui est tenu par Rockast, qui est un ancien praticien d'aïkido et qui a un peu quitté l'aïkido parce qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas très efficace. Il a fait une vidéo tout récemment, le 16 février, qui s'appelle « Was I wrong about Krav Maga ?» parce que j'avais tort sur Krav Maga, où il y a des gens qui lui ont envoyé plein de vidéos d'exemples de Krav Maga et il discute un peu des points positifs et négatifs du truc, en fait. On la mettra en lien dans les notes de l'épisode.
Voilà, et donc là, il donne plein d'exemples de ce que je viens de décrire. Et c'est vrai que si vous n'êtes pas assez rodé, il faut que vous appreniez à repérer ce genre de technique quand le professeur présente ce genre de technique où il y a une attaque qui est exécutée et puis le temps s'arrête pour l'attaquant et puis le défenseur fait ce qu'il veut. Mais apparemment, toi, dans ton club de Krav Maga, c'est pas ce qui se passe, quoi. C'est pas
non, alors en fait, nous, on fait des techniques comme ça, mais c'est une étape, tu vois. C'est-à-dire que quand on voit une nouvelle technique, on la fait d'abord d'une manière très basique. Et puis après, il y a des scénarios où tu dois défendre face à plusieurs techniques, où tu ne sais pas laquelle va sortir, où on rajoute différents assaillants, où on la fait avec quelqu'un qui a les yeux fermés et qui n'est pas en position de combat, et puis on lui donne un signal sonore et il doit ouvrir les yeux et directement réagir quand il se fait frapper. Donc il y a quand même une tentative de mettre ça en pratique d'une manière qui n'est pas scriptée et qui est plus réaliste, mais ça ne va pas jusqu'au sparring réel, quoi. Ça ne va pas jusqu'à quelque chose où on met des protections et on peut vraiment se taper... Mais donc, c'est mieux, mais ce n'est pas encore bien. Voilà.
Oui, donc une autre manière de penser à ce problème-là, c'est de voir une échelle dans la grade de gradation dans les exercices. Donc, le premier niveau, c'est s'entraîner à faire le mouvement seul dans le vide, typiquement un kata en karaté, par exemple. Puis après, le deuxième niveau, c'est s'entraîner à faire le mouvement, mais avec un partenaire coopératif. Mmh. Là, c'est le niveau de l'aïkido, par exemple. Et puis... Après, le troisième niveau, c'est apprendre à faire le mouvement sur un partenaire qui résiste autant que faire se peut. Et donc, je veux dire, ça, c'est pas forcément problématique de faire les niveaux 1 et 2, pour autant qu'on ait aussi à un moment donné les niveaux 3. Après, on peut discuter, est-ce que par exemple le niveau 1 est vraiment utile, est-ce que c'est le meilleur usage de son temps, etc. Bon, ça peut ouais. On peut en débattre, mais l'important, c'est qu'il faut qu'il y ait un moment, il faut du niveau 3, sinon ça ne va pas.
C'est ça. Sinon, tu ne mets jamais en pratique dans un contexte réaliste. Et pour prendre une analogie un peu à la con, c'est un peu comme si on apprenait à faire du tennis et que l'adversaire en face, la seule chose qu'il fait, c'est envoyer des balles prédéfinies ou des coups prédéfinis et il n'essaye pas de gagner, quoi. Ben, si votre seule pratique du tennis, c'est ça, ben, vous n'allez pas pouvoir être bon dans le tennis. Je pense que ça, tout le monde intuitivement comprendra facilement pourquoi. Ben, c'est la même chose avec les sports de combat ou les arts martiaux. Enfin, il n'y a pas de raison que ça soit différent. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu une bizarrerie quand on y pense de ne pas faire du sparring. Alors moi, j'en ai déjà parlé avec le prof et son excuse, et bon, c'est ce qui revient souvent, je pense, chez plein d'autres profs, c'est qu'on ne veut pas que les gens se blessent ou qu'ils soient choqués ou qu'ils ne reviennent plus, etc. Et autant je pouvais comprendre cet argument un peu au début quand je n'avais jamais rien pratiqué, autant maintenant, en fait, je trouve que c'est un mauvais argument parce que en réalité, on peut faire du sparring à tous les niveaux d'intensité, en fait. On peut faire du sparring très léger, un peu plus grand que la réalité, sans mettre beaucoup de force. Et puis, quand on est un peu habitué à aller un petit peu plus haut, on n'est pas obligé de se taper sur la gueule à 100% de force, quoi. Je veux dire, même dans les salles où il y a des gens qui font des matchs professionnels, souvent, leur sparring, ce n'est pas un sparring de haute intensité. Ils font aussi du sparring léger, avec des partenaires qui ne mettent pas beaucoup de force, et c'est très bien. Donc, il y a moyen, sans enlever totalement le sparring, de faire des sparring d'un niveau léger qui ne va pas faire que les gens repartent avec des blessures, sont choqués ou trouvent ça trop violent, quoi. Donc, voilà. Maintenant, je trouve que c'est vraiment une mauvaise excuse, en fait, cet argument-là, et que du coup, ça diminue vraiment la qualité de la pratique pour pas grand-chose, quoi.
Je sais pas ce que tu en penses. Oui, bien sûr. Chez moi, dans mon club, la façon dont ça se passe, c'est qu'on différencie les compétiteurs des autres, par exemple. Alors, les compétiteurs, surtout s'ils ont un match qui vient, à ce moment-là, forcément, l'intensité augmente. Et alors, on met des compétiteurs ensemble. Et Et oui, enfin, c'est ça les fameux training camps, hein, les camps d'entraînement. Et là, forcément, il faut forcément, c'était une compétition qui vient. Il faut qu'à un moment, tu te battes comme si tu étais pas forcément la semaine qui précède, parce que là, tu dois être en forme pour ton match. Mais, je veux dire, si moi, je ne suis pas un compétiteur, donc je n'ai pas besoin de m'entraîner. Je viens pour m'amuser. Donc, moi, j'ai déjà eu chez moi le prof de boxe thaï qui a fait des remarques à des gens qui allaient trop fort en disant voilà, c'est pas des compétiteurs, t'as pas besoin de taper comme un bœuf. Donc voilà, le prof peut gérer ça en fonction du public, hein, mais ça n'empêche pas qu'on enfin, voilà, on peut faire du sparring quand même. Hein,
c'est ça. Donc il faudrait que la salle en fait gère différents niveaux d'intensité en fonction de ce que les gens cherchent, plutôt que de mettre soit des trucs super brutaux ou avoir rien du tout, quoi. Parce que sinon, bah tu passes à côté du truc, il y a rien à faire. C'est vraiment assez clair. Et voilà, et aussi.
Bah, honnêtement, moi, quand j'entends ça de la part d'un prof, si je peux être totalement honnête, moi ce que j'entends, c'est j'ai peur de me faire humilier en sparring par mes élèves. Hein. Je suis désolé.
Ouais, oui, je pense que.
Évidemment, par exemple, les profs dans ma salle, ils ne vont jamais faire ça parce qu'ils sont super forts et ils peuvent. Ils ont clairement le niveau pour. Bon, évidemment, il y a des compétiteurs qui sont pratiquement aussi forts que le prof, comme ça, mais et puis le coach peut être plus âgé, etc. Mais ça, on comprend bien qu'un coach plus âgé ne va pas avoir le même niveau qu'un compétiteur de 20 ans. Mais je veux dire, on voit bien que le coach peut gérer du sparring et qu'il a le niveau. Mais un prof qui n'a jamais fait ça, bah forcément, il peut avoir peur en se disant si j'accepte de faire du sparring, les élèves vont se rendre compte. Enfin, je ne sais pas si c'est conscient. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends quand on me dit ce genre de trucs.
Tout à fait. Alors, peut-être pour te donner encore une info par rapport aux critiques dans la vidéo de Rocas, parce qu'il y a deux critiques que j'ai vues plusieurs fois, pas que dans sa vidéo, mais qu'on voit parfois, quand les gens reprennent des extraits de Krav Maga sur YouTube, deux critiques que je ne trouve pas très bonnes, en fait. Une première critique, c'est, on la retrouve à peu près à 2-3 minutes de sa vidéo, il prend un exemple d'une chaîne de Krav Maga qu'on voit souvent apparaître dans les suggestions, si on regarde des vidéos de Krav Maga, ça a l'air assez connu, et où les gens, de nouveau, ils tapent toujours dans le vide, ils font des combos hyper complexes au couteau, donc genre, tu as un type qui tape au couteau, puis ils font une clé de bras, puis une projection, puis un truc, enfin, des trucs complètement irréalistes que tu te dis, mais ils arriveront jamais à placer ça si on les tape dans la rue, c'est impossible. C'est effectivement assez mauvais, je trouve. Mais moi, par exemple, là où je suis, j'ai jamais vu le moindre mouvement qui correspond à ça, en fait. Zéro, quoi. Il y a dans le programme, d'ailleurs, je t'avais envoyé au programme, on en avait un peu discuté hors épisode. C'est tout des mouvements simples. Il y a quelques clés, des trucs comme ça, mais c'est dans les niveaux vraiment très avancés et c'est pas du tout. Important dans la pratique, c'est vraiment très limité. Tout ce qu'on fait par rapport au couteau, c'est des mouvements très simples pour lesquels il ne faut pas réfléchir et qui sont simplement des mouvements qui visent à bloquer ou déplacer le couteau pour pouvoir frapper et partir. C'est toujours vraiment très basique et on ne fait pas des combos comme ça de 3-4 étapes qui sont typiquement le genre de truc que tu ne sais jamais placer en réalité. Donc ça, c'est une bonne critique, mais je pense que voilà, il faut pas penser que ça représente tout Krav Maga non plus, parce que voilà, ici à Krav Maga Global, il y a quasiment rien de ce genre de technique dans le programme, quoi. Donc voilà, faut voir un peu aussi d'où viennent ces gens, qu'est-ce qu'ils font, à quelle fédération ils appartiennent. Les gens qui étaient avec le fondateur du Krav Maga, il y a des différences entre les fédérations, mais il y a quand même une philosophie générale qui est que ça doit toujours être des mouvements simples et intuitifs que tu es capable de faire, même si tu n'es pas un combattant expérimenté de sport de combat, quoi. Et donc, certainement pas des clés de bras après une parade au couteau et puis un truc. Ce genre de truc, c'est vraiment contraire à la logique qu'avait le fondateur de la discipline. Donc, voilà, comme le Krav Maga est devenu une étiquette marketing très populaire, il y a plein de gens qui font du Krav Maga, mais qui n'ont parfois pas grand-chose à voir entre eux. Et donc, voilà, si ça intéresse quelqu'un, moi, je propose d'aller, en tout cas dans les fédérations qui se raccrochent vraiment au lignage du Krav Maga original, qui n'est pas dur à trouver, puisque c'est Krav Maga, c'est un truc de deuxième génération. Donc, le fondateur, il est mort il y a, je ne sais pas quand, il y a un certain nombre d'années, mais il n'est pas mort il y a très longtemps. Donc, voilà, c'est très jeune comme pratique.
C'est toujours un problème de contrôle de qualité dans les fédérations, mais ça, c'est un problème classique dans toutes les disciplines. Ouais. Hein. Bon, là aussi, ce qu'il faut, c'est que quand vous n'allez pas vous inscrire dans un club ou un dojo sans comme ça, en prenant le premier club ou le premier dojo qui vient, vous allez dans 10 dojos différents et vous comparez, et puis vous regardez celui qui vous semble le meilleur. Hein, mais faut pas hésiter à... Enfin, ouais. Je sais bien, c'est un conseil qu'on donne toujours, évidemment, pour les gens qui n'ont jamais fait d'arts martiaux, ça peut être un peu délicat pour eux de pouvoir évaluer la pertinence de ce qu'ils voient, mais bon, ils peuvent quand même se faire une idée de en voyant ce que les gens voient, comme à quoi ressemble un entraînement dans chaque dojo. De toute façon, normalement, un club ou un dojo propose toujours une séance d'entraînement gratuite.
Oui, c'est ça. C'est partout.
Vous faites une séance dans 10 clubs différents et puis vous prenez le meilleur. Hein. Mais ouais, non, mais ton truc là, c'était. Ouais, t'avais encore couvert un point super important. Ah oui, c'était ça, la complexité des mouvements. Oui, donc ça, c'est parce que l'idée, c'est que si tu as des mouvements complexes, qui demandent une psychomotricité fine, avec le stress d'un combat réel, tout ça va passer par la. Va être perdu, hein. Donc ouais. Il faut absolument garder les mouvements les plus simples possibles, même c'est lié au freeze, hein. De toute façon on en avait parlé dans les il y a eu des études chez les militaires, hein, que les militaires on leur apprend à se battre, et puis lors des je sais plus combien de mémoire 3 ou 4 premiers combats, ils utilisent rien de leur entraînement, enfin parce que avec le stress, être capable de mobiliser l'entraînement que tu as reçu, donc ouais. Et en plus, voilà, tu ne vas pas faire des mouvements complexes d'un point de vue psychomoteur alors que tu es en état de... Enfin, avec
état de stress.
Un état de stress intense, ouais. Donc là aussi, hein, ça, c'est une critique. Tous les mouvements d'aïkido, par exemple, demandent une psychomotricité fine à réaliser. En situation réelle, ça passe à la trappe. Donc, il faut vraiment des mouvements très basiques. Hein. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on disait, tu disais au début, finalement, la boxe, voilà, si on peut pouvoir se débrouiller au départ, faire un peu de boxe, c'est une discipline où on peut avoir quelques mouvements à réaliser. Et on n'entraîne que ces mouvements-là, donc de toute façon, bon, évidemment, après, quand on affronte un autre boxeur, ça peut aller très loin dans l'habileté des combattants, comme on peut le voir dans les boxeurs de haut niveau, mais face à une agression chez quelqu'un qui ne sait pas. Enfin, voilà, ça peut donner déjà quelques bons mouvements de base qui ne demandent pas une psychomotricité fine si la personne en face n'est pas un champion olympique, en tout cas.
C'est ça. Il faut que ça reste basique. Et il y a quand même une philosophie derrière le Krav Maga qui est que le but, c'est de pouvoir se défendre face à des gens qui ne sont pas censés être des combattants, quoi. Parce que Krav Maga, ça ne forme pas des combattants. Ça donne des compétences de self-défense à des gens qui sont un peu tout le monde. Et l'idée, ce n'est pas qu'on va réussir à bien se défendre contre un type qui a fait 15 ans de MMA. Ce n'est pas ça le principe. Parce qu'on part du principe que le type qui fait 15 ans de MMA, il ne va pas t'attaquer dans la rue. Quoi. Donc voilà, après, ça peut toujours arriver. Mais à ce moment-là, tu te fais juste démonter. De toute façon, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas vraiment d'alternative, mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir se défendre dans des situations qu'on n'a pas réussi à désamorcer, qui vont être quoi ? Qui vont être un voisin bourré ou agressif, qui vont être un type dans un bar qui a un peu bu ou qui a pris de la drogue, des gens qui veulent te voler ton portefeuille à une station de métro, un truc comme ça, qui ne sont pas des combattants eux-mêmes. Alors, là-dedans, tu peux avoir des gens qui viennent juste te menacer et qui n'ont aucune notion de combat, comme tu peux avoir des gens qui ont déjà pris part à des bagarres, mais qui n'ont pas de notion de combat non plus. Mais qui ont quand même une idée de ce qu'ils vont faire pour te taper, quoi. Mais l'idée, c'est que Krav Maga, ça permet de répondre, en tout cas avec une probabilité de réussite suffisante à ce genre de personnes, pas un boxeur professionnel, évidemment, quoi.
Ah, c'est juste que finalement, le problème, c'est que un combat, c'est une y a tellement de variables que c'est un domaine d'apprentissage sans fin. Il n'y a pas vraiment de moment où tu peux dire j'aurais maîtrisé tous les aspects possibles que je peux maîtriser. Et donc, y a toujours une marge de progrès. Hein. Moi, ça fait quoi ? Ça fait 30 ans que je fais des arts martiaux et j'apprends des nouvelles choses tous les jours. Hein. C'est pas, la complexité des variables et ce que tu peux apprendre pour te défendre est tellement vaste. Oui, j'imagine, si tu es prof de Krav Maga, il faut que forcément... En fait, ce n'est pas un choix du Krav Maga, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est la seule chose à faire. Ils essaient de donner une sorte de... Le programme que tu m'avais envoyé, c'est une sorte de socle, de basique de compétences. Ils ont réfléchi, ils ont dit, Qu'est-ce que doit pouvoir faire quelqu'un au minimum pour savoir avoir une chance de s'en sortir dans une situation? Et ils ont essayé d'établir ça, un socle ça. Basique de compétences, mais ouais. Évidemment, c'est que de la base.
C'est ça. C'est vraiment ça l'idée. D'où l'intérêt de faire du cross-training aussi et de faire un peu de boxe ou un peu de lutte ou un peu d'autres choses à côté. Et au plus tu en fais, au plus ça sera efficace et facile à mettre en pratique.
Ouais, moi, je pense que c'est ça que j'ai comme opinion sur la self-défense. Moi, je pense que la self-défense, ce n'est pas suffisant en soi, mais c'est un complément. Quoi. C'est un bon complément. J'avais fait carrément une vidéo sur l'importance du cross-training. Moi, je pense que pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, si vous faites des sports de combat et encore plus si vous faites des arts martiaux, à ce moment-là, il est indispensable de faire de temps en temps un stage de self-défense, etc., juste pour qu'on vous parle des aspects théoriques de la self-défense et qu'on vous crée des mises en situation qui seront différentes de vous êtes dans un ring ou vous êtes sur un tatami et alors vous savez que votre adversaire est devant vous et vous êtes dans de la violence consensuelle.
Oui, ça, c'est vraiment utile parce qu'il y a quand même des adaptations. Parce que, par exemple, pour les frappes, je veux dire, dans Krav Maga, il n'y a pas beaucoup de situations où tu frappes avec tes poings fermés, quoi. Parce que si tu frappes avec tes poings fermés, vous pouvez tester chez vous, frapper doucement sur votre mur. Vous allez voir que ça fait vite très mal de frapper sur un truc dur avec son poing. Et donc, en fait, si vous frappez toute votre force sur la mâchoire d'un type, OK, il sera probablement très mal après, mais votre main, il sera très mal aussi, quoi. Donc, Si au premier coup qu'on donne, on se pète déjà les os derrière les doigts ou le poignet, c'est pas terrible non plus, quoi. Donc voilà, dans Krav Maga, beaucoup de frappes elles sont faites avec la partie ici des mains et qui est pour le coup beaucoup plus insensible et beaucoup plus dure et qui plie pas facilement. Et donc là, il y a une adaptation à faire. Évidemment, quelqu'un qui a déjà fait de la boxe arrive assez facilement à frapper comme ça. Mais il faut quand même faire l'adaptation pour voir comment on change son mouvement pour ne pas se blesser. Parce que quand on n'a pas de gants, on ne fera pas de la même manière, quoi. Et de nouveau, s'il y a plusieurs assaillants, si tu te pètes la main au premier coup que tu donnes, c'est pas, d'un point de vue self-défense, ce n'est pas fantastique non plus, quoi. Donc, oui, il y a plein de petites adaptations comme ça.
Piqûre de rappel pour ceux qui ne le savent pas. Évidemment, les gants ne protègent pas le visage de la personne qui est frappée, mais ça protège les mains de la personne qui attaque. Ouais, c'est ce qui permet aux gens de se donner des coups de poing très forts. Parce que si on attaque sans gants, on se bousille les doigts, en gros. Hein.
C'est ça, c'est vraiment une arme, les gants, en fait.
Ouais, c'est une arme, les gants.
et oui, pour revenir un peu sur un des problèmes qui est le manque d'intensité, un exemple très simple de ça, c'est que au début des cours, moi, je fais souvent à la maison encore un peu du travail de boxe avec des vidéos YouTube et j'ai une espèce de balle là, un espèce de piquet qui pivote. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais tu vois ce que je veux dire. Une balle de frappe pour la boxe, quoi.
Oui, d'accord.
Et des balles qui sont assez dures, en fait. Alors, avec les gants, on peut frapper là-dessus sans problème. Et en fait, après, je crois que c'était le deuxième ou troisième cours, je me suis dit, tiens, je vais faire un peu de frappe. Et je faisais les frappes, mais comme au Krav Maga, mais du coup, sur ma balle. Mm-hmm. Et en fait, on voit très, très vite que quand tu fais ces frappes à très basse intensité, même si tu ne la fais pas bien, tu ne vas pas te faire mal, quoi. Par contre, en fait, dès que tu mets vraiment de la force dedans, ce qui va se passer, c'est que si tu ne fais pas la frappe exactement au bon endroit, qui est vraiment le bas de la main, si tu es trop haut, ce qui va se passer, c'est que le poignet, en fait, il plie et ça fait très, très mal et après, ça casse. Et si tu es trop haut, tu n'as plus de force. Si tu es trop bas, tu glisses, tu passes à côté. Et ça, c'est des trucs, tu peux faire un million d'exercices au cours de Krav Maga sur des pattes d'ours ou dans le vide. Tu n'as aucune conscience de ça, quoi. Donc voilà, je trouve que ça, c'est un bon exemple parce que voilà, le jour où tu te retrouves face à quelqu'un et tu veux frapper et tu n'as jamais frappé sur un truc, c'est le genre de problème qui va apparaître en fait. Donc là aussi, tu vas mal frapper. Du coup, tu vas te faire super mal ou tu vas te péter le poignet. Tu ne vas même pas comprendre pourquoi. Et il y a plein de petits détails comme ça pour la plupart des techniques. Pareil pour les défenses au couteau. Bloquer l'avant-bras de quelqu'un avec ton poignet ou avec ton avant-bras, comme ça, quand c'est fait avec la force maximum, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, alors nous, on fait ça tout mou et ça fait déjà un peu mal. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent avec des protège-poignets au Krav Maga. Moi, je fais pas ça parce que je trouve ça un peu ridicule, mais effectivement, si tu tapes très fort, tu as un os contre un os, hein, ça fait très mal. Et ça, on n'imagine pas. Donc, si tu fais ça en situation réelle et qu'après, il y a 3-4 autres coups qui viennent, bah, tu es désorienté, en fait, parce que tu n'as pas le temps ton cerveau n'a pas le temps d'enregistrer ce qui se passe et qui est différent, et ça va te perturber. Et là aussi, c'est vraiment, voilà, si tu ne fais pas un peu de sparring avec l'intensité, c'est des choses que tu n'expérimentes pas. Et donc, ça, c'est vraiment un problème.
Ouais, cet été, j'ai eu un stage avec un prof de karaté Kyokushin, hein, où ils font du randori, du sparring sans gants. Hein. C'est intéressant de voir. Alors, j'ai eu l'occasion de faire un sparring sans gants. Bon, alors, là, il n'y avait pas de frappe au visage. Bon, il m'a dit que dans les entraînements de Kyokushin, parfois, ils s'entraînaient quand même à frapper au visage. Hein. Mais bon, ici, c'était juste pour... je fais pas du Kyokushin d'habitude, les frappes autorisées, c'était au niveau du ventre, mais c'est vrai que c'est assez rien que là, déjà de frapper sans gants, on peut voir déjà la différence de sensation. Ouais. Bon, maintenant, les profs de Kyokushin me disent que chez leurs élèves, ils n'ont pas trop d'accidents de doigts cassés, de choses comme ça. Donc, apparemment, avec de l'entraînement approprié, tu peux apprendre à frapper sans trop de fractures.
Bah, tu doses ta force aussi. Une fois que tu as vu quelle force tu pouvais mettre, bah, tu sais un peu ce que tu peux faire. Bah, d'ailleurs, on le voit dans les combats de boxe sans gants. Là, hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom particulier, mais où ils ont juste des bandelettes autour des mains. Bah, tu vois qu'ils ont peur de frapper, en fait. Mmh. Et il y a beaucoup moins de combos. Ils essayent vraiment de frapper... de bien frapper parce qu'il y a vraiment un risque de te casser la main sinon.
Et puis dans les trucs qui autorisent les coups de coude, alors à ce moment-là, c'est les coups de coude qui viennent, etc. Ouais. Pour éviter ce genre de problème. Non, mais c'est clair. Un autre exemple aussi, c'est en jiu-jitsu brésilien. Il y a encore une vidéo récemment qui a émergé d'un combat, enfin d'une agression dans la rue. Et le gars s'est retrouvé à faire du jiu-jitsu brésilien. Il avait un certain niveau, visiblement. Mmh. Et alors, l'autre lui est monté au-dessus et puis il a fait un triangle choke. Donc, un triangle, c'est tu passes tes jambes, tu es en dessous et l'adversaire est au-dessus et tu passes tes jambes au-dessus autour de la tête, en gros, et tu l'étrangles avec tes jambes. Quoi. Mmh. Et c'est une technique à haute probabilité de succès. En compétition de BJJ, mais évidemment, ce qui s'est passé en combat de rue, c'est que le mec a fait l'a soulevé et puis l'a slamé sur le sol, ce qui est un contre très efficace contre ça, mais c'est interdit dans les compétitions de BJJ parce qu'on aimerait bien que les compétiteurs de BJJ aient un dos à la fin dans leur grand âge. Si on peut. En MMA, il y a certains, parfois c'est autorisé, je pense, mais dans certains cas. En tout cas, chez les pros, c'est autorisé, je pense. Donc, vous imaginez, vous êtes en train de serrer la tête du gars et on vous soulève et on tape sur le sol. Quoi. Et vous estimez ce qui vous reste après ça. Et donc, par exemple, ici, on a un exemple d'un entraîneur. Parce que le BJJ, évidemment, c'est très efficace, hein, mais... En gros, il n'aurait jamais dû attaquer en triangle dans un combat réel. Mais le problème, c'est qu'on se bat comme on s'entraîne. Et alors, il a eu le mauvais réflexe. Ou alors, il aurait dû, dans une situation... En fait, si on s'entraîne à la salle défense, à la lutte, dans un contexte de salle défense, il faut qu'on t'entraîne à... Dès que tu sens que l'autre est en train de soulever, tu dois laisser partir ton triangle pour pas qu'il puisse te slammer. Mais visiblement... Et donc, ouais, comment même un art martial extrêmement efficace comme le BJJ peut entraîner... en fait, donner des mauvais réflexes ou des mauvaises habitudes parce que c'est très quelque chose est très efficace en compétition à cause d'une règle qui interdit certains mouvements. Et,
Enfin, donc, du coup, voilà. Ça devient dangereux là, dans un contexte de self-défense.
Ouais, tu voulais dire un mot des arts martiaux traditionnels, pas traditionnels, historiques, pardon.
Oui. Ça fera une bonne transition. Donc oui, je voulais dire quelques mots de ça parce que j'ai commencé depuis quelques mois à faire des cours d'arts martiaux historiques européens. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est? Parce que je sais que personne ne sait ce que c'est. C'est en gros, les arts martiaux historiques européens, c'est un truc qui a quelques dizaines d'années, c'est relativement récent comme pratique. Et c'est une recréation en fait, de la pratique des armes fin Moyen-Âge, de Renaissance, ça dépend des armes, basé sur des manuels de combat historiques. Donc en fait, ça vise à recréer qu'est-ce qu'était vraiment une pratique des armes réalistes de l'époque, avec des armes européennes. Donc les principales armes qu'on trouve, c'est l'épée longue et la rapière. La rapière, tout le monde sait ce que c'est une rapière. C'est un peu l'arme des mousquetaires ou ça ressemble à l'arme que vous trouvez dans l'escrime, sauf que dans l'escrime, qui est aux Jeux Olympiques, c'est devenu une toute fine pointe qui plie beaucoup et Il n'y a plus de force dedans. Enfin, c'est vraiment juste pour la touche. Il y a des rapières, c'est des plus grosses lames qui sont plus rigides. Et l'épée longue, bah, c'est une grosse épée à deux mains qui est un peu bah, l'épée des chevaliers, quoi, pour dire ça de manière caricaturale, même si ce n'est pas forcément l'épée des chevaliers, mais c'est un peu l'image qu'on en a. Donc, c'est l'épée à deux mains, même s'il y a beaucoup de variations qui existent. Donc, c'est une arme qui était essentiellement utilisée entre le 14e siècle et 16e siècle, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc c'est cette pratique, en fait, recrée le combat aux armes, comme on ferait des sports de combat. Donc, c'est assez similaire aux sports de combat, en soi, au niveau de la pratique. Et ça se fait toujours avec des protections. Du coup, ça permet justement ce que Krav Maga ne permet pas dans la plupart des salles, c'est-à-dire du sparring où on peut taper les gens. Et ça, c'est vraiment très, très chouette. Donc, ici, bon, à la salle où moi je suis, on fait du sparring à tous les cours. Et alors, évidemment, on a toujours l'équipement minimum, c'est un masque d'escrime avec un gorget. Du coup, on est pas mal protégé au niveau de la tête. Et s'il n'y a pas trop d'intensité, si c'est du sparring léger, on utilise juste le masque et des gants. Il y a des gants rembourrés parce que les coups sur les mains, c'est assez dangereux. Mais voilà, pour le reste, ça peut se faire en t-shirt et en training. Si on tape pas trop fort, bon, on se fait quelques bleus de temps en temps, mais c'est pas ça, ça va quoi. Mais du coup, c'est vraiment intéressant. Alors, je vous montre un peu, je vous montre à quoi ça ressemble l'épée. Ça permet d'expliquer un peu la pratique. Je me recule avec la. Donc, ça c'est l'épée longue. Ça fait 1,35 m à peu près. Donc, c'est une assez grosse épée. Ça pèse 1450 grammes dans ces eaux-là. Et donc, voilà, ça c'est l'épée à deux mains. Donc, c'est vrai que c'est assez lourd, mais c'est plus maniable que ce qu'on imagine. Et en gros, ce qui est vraiment intéressant dans le combat à l'épée, peu importe les épées, ça existe aussi avec la rapière. C'est que c'est beaucoup plus technique que ce qu'on imagine. Il y a des frappes qui. Bon, ça, vous pouvez imaginer facilement le type de frappe. Il y a des frappes de différentes directions, d'en bas, d'en haut, du côté, etc., comme on voit dans les films. Mais il y a tout un côté qu'on ne voit pas dans les films et qui est vraiment le cœur de la pratique. Et ça, c'est ça que moi, j'ai vraiment découvert, que j'ai trouvé très intéressant. C'est qu'en fait, dès que les lames se retrouvent les unes contre les autres, en fait, il y a un travail très technique pour pouvoir attaquer l'autre sans se mettre en danger soi-même. Parce que c'est toujours ça un peu la logique. C'est qu'on part du principe que les gens ne sont pas suicidaires et que donc, pour attaquer l'autre, il faut aussi il faut se défendre en même temps, en fait. Donc, il y a une question de ligne de direction des armes. Et il faut pouvoir, en principe, attaquer l'autre, mais sans que lui soit en position de t'attaquer en même temps. Et si les gens se tapent tous les deux en même temps, bon, ils gagnent quand même des points, mais c'est pas très bon, quoi. Parce qu'on part du principe de nouveau qu'on essaye à viser un réalisme et les gens ne sont pas suicidaires dans la pratique de l'épée. Ils n'ont pas envie d'être blessés ni de mourir s'ils sont sur un champ de bataille. Donc, voilà, c'est assez défensif. Et donc, ça amène en fait tout un travail. Je vais montrer un peu ici avec une règle. C'est assez simple à expliquer, mais c'est vraiment intéressant. C'est que dès qu'il y a une parade, dès qu'on bloque la lame de l'autre, et ce qui arrive tout le temps, en fait, les lames se retrouvent les unes contre les autres. Et là, il y a tout un travail pour pouvoir, bon, pouvoir en gros piquer avec sa lame vers l'adversaire, mais sans que lui puisse faire la même chose. Et là, ça se fait. Là, c'est assez physique, puisqu'il y a plein de paramètres qui viennent en jeu. Il y a à quel endroit de la lame est-ce qu'on touche l'autre lame, parce que la force est différente. Il y a la hauteur de la main. Hein, en fonction de la hauteur, ben, on va changer les angles auxquels nous, on peut attaquer et auxquels l'autre peut attaquer. Et puis, il y a aussi la garde, puisque les épées longues, elles ont toute une garde comme ça qui est. Voilà, vous la voyez ici, c'est des assez grosses gardes. Et donc, en fait, ben, les lames se prennent dans les gardes. Et en fonction de la direction de la garde, on va bloquer les directions dans lesquelles la lame de l'adversaire peut aller ou peut ne pas aller. Donc, ça permet d'attaquer l'autre personne en prenant un bon angle, en se déplaçant sur les côtés, par exemple, en faisant tourner les poignets, enfin voilà, et sans que l'autre puisse attaquer. Donc, c'est vraiment un truc très technique. Et voilà, ce que j'aime bien et qu'on retrouve pas dans le Krav Maga, ben, c'est que tout ce qu'on pratique, on le fait toujours avec un partenaire. Et après, ben, on a du sparring à toutes les séances. Alors, parfois, c'est du sparring dirigé pour certains exercices. Parfois, c'est du sparring libre. Mais dans le sparring, tu peux vraiment mettre en pratique toutes les techniques que tu vois. Et comme on le fait automatiquement avec des protections, ben, tu peux y aller, quoi. Tu ne dois pas taper dans le vent, mais aller tout doucement. Les masques d'escrime, ça encaisse vraiment très bien. Donc tu peux vraiment taper à la tête comme tu veux. Alors après, si on fait du sparring avec plus d'intensité, comme c'est vrai que c'est des armes très lourdes, il faut un peu augmenter les protections. Donc là, il y a des vestes rembourrées qu'on peut mettre en plus ou des gants qui sont plus épais. Mais voilà, déjà rien qu'avec des gants de base et le masque d'escrime, on peut déjà taper pas mal comme un sparring de boxe, je dirais, de niveau de base, quoi. Comme quand on fait du sparring à deux, tu peux déjà taper assez fort avec les épées, c'est assez intéressant. Et il y a pas mal d'armes qui sont utilisées, donc il y a des cours de rapière, il y a des cours de dague aussi, donc il y a et de dague et rapière, ça c'est aussi un truc assez populaire. Et la dague, du coup, ça ressemble assez fort à certains trucs qu'on a aussi dans les combats au couteau modernes, en fait, puisque il y a plein de techniques qui visent à parer les attaques de dague avec les avant-bras et à faire des mouvements comme ça circulaires pour parer, contre-attaquer, comme on trouve dans Krav Maga, mais aussi dans le Kali ou Eskrima, les arts martiaux philippins. Tout ça ressemble assez fort à ce qu'on peut trouver aussi dans les techniques de combat de dague moyenâgeuse. Et comme il y a du sparring tout le temps, ben on peut tester ces techniques et voir ce qui fonctionne en temps réel avec un type qui résiste vraiment fort, quoi. Parce qu'on peut vraiment mettre sa force dans l'épée et y aller, quoi. On doit pas, avec les protections, tu peux y aller, quoi. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça fait un filtre de réalisme qui est vraiment bien. Et en plus, c'est basé sur des manuels historiques de maîtres de combat de l'époque. Où tu as des illustrations où ils expliquent les techniques, les différentes gardes, les différentes attaques, etc. Alors évidemment, c'est toujours une recréation parce que c'est des manuels qui datent de la Renaissance ou fin Moyen-Âge. On n'a pas des vidéos YouTube avec les experts de 1600 qui font du combat de Longsword. Mais voilà, c'est vraiment basé sur des sources historiques. Il y a un autre truc que je trouve génial dans la pratique et qui fait que c'est vraiment hyper fun pour moi en tout cas, c'est que, on n'en a pas encore parlé, mais ça inclut aussi une partie lutte, parce que historiquement, dans les combats d'épée, que ce soit à la rapière ou à l'épée longue, en fait, il y a toujours une partie lutte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez au corps à corps, eh ben, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez lâcher une main et essayer de désarmer l'autre. Vous pouvez donner un coup de crosse dans la tête de l'autre. Il y a des techniques où vous pouvez saisir carrément... le manche de votre épée pour taper comme ça. Enfin, il y a plein de techniques dans les manuels qui existent. Et en gros, au sparring, tu peux faire ce que tu veux tant que ça marche, quoi. Bon, ce qui est limité par ton équipement, évidemment. Du coup, nous, comme on est dans une salle où il n'y a pas de tatami, on ne fait pas les projections. Mais en soi, dans les mats, tu as aussi une partie projection. Donc, tu peux aussi attraper les gens, les mettre au sol si tu veux. C'est valide, ça passe. Et donc, ça, c'est vraiment très, très chouette. Voilà. Alors à Bruxelles, il y a deux clubs différents. Donc moi, je suis dans celui qui est près de Tomberg, à Ogué. Le club là est plutôt axé sport de combat, donc c'est vrai qu'on fait beaucoup de sparring et beaucoup de pratiques avec partenaires. Il y a des clubs qui sont où il y a un peu moins de sparring ou un peu plus de pratiques solo. Ça varie un petit peu, mais globalement, il y a toujours quand même une confrontation comme ça, la réalité où tu mets en pratique tes techniques. Voilà, donc ça c'est vraiment très 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 intéressant. Et il y a différentes écoles. Bon, il y a la grosse école, c'est une école allemande, mais il y a une école italienne, une école espagnole aussi, et bon, qui ont tous le même socle de base, mais il y a des petites variations dans les distances. Par exemple, il y a des écoles qui se battent avec un peu plus de distance, d'autres qui foncent très très vite au corps à corps. Après un ou deux coups, ils sont directement en lutte au corps à corps. Ça varie un petit peu, mais globalement, le socle commun est le même, et tu peux aller regarder des vidéos d'une autre école et puis tester les méthodes en sparring. Tu peux ramener ce que tu veux dans le sparring tant que c'est un truc qui fonctionne. Et bah, si ça ne fonctionne pas, tu le vois très vite parce que comme tu peux tester vraiment avec les protections, tes techniques, bah, c'est vraiment voilà, assez réaliste et ça donne vraiment une impression de combat réel, quoi. Voilà, donc je voulais parler de ça parce que c'est très peu connu et c'est une pratique qui est vraiment très chouette. Moi, j'adore ces cours, je m'amuse vraiment bien avec ça. Et il y a aussi des clubs qui font des reconstitutions historiques. Donc, ils vont aussi dans les foires médiévales faire des combats plus pour le fun, pour faire du spectacle. tous les clubs ne font pas ça. Donc voilà, chez nous, on fait moins ça. Ils sont plus axés sur vraiment la technique de combat elle-même. Mais c'est vraiment une pratique intéressante. Et du coup, quand j'ai découvert ces cours, je me suis dit vraiment, mais c'est tellement con que dans les cours de Krav Maga, on n'utilise pas de protection comme ça, quoi, parce qu'en fait, il ne faut pas grand-chose. Tu mets un masque d'escrime et rien qu'avec un masque d'escrime, bah ça y est, les coups de couteau à la tête, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a plus aucun risque de blessure. Tu rajoutes une simple veste un peu matelassée, bah pareil, tu peux taper au corps avec ton couteau en plastique, eh ben, plus de risque de blessure non plus. Et le simple fait d'avoir ces équipements, tu peux faire quelque chose qui rend ta pratique radicalement plus efficace, où tu peux tester à chaque cours en temps réel avec des vrais, en mettant de la force, en mettant de la vitesse, tes techniques, et voir qu'est-ce que tu fais bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quelle est la différence entre quand tu pratiquais avec l'adversaire qui faisait juste ce que tu voulais qu'il fasse, et puis quand il ne se laisse pas faire, bah, quelle est la différence, qu'est-ce que tu arrives encore à placer comme technique et qu'est-ce qui devient très dur à placer. Voilà, et ça, c'est vraiment très, très chouette. Donc, si vous avez le moindre intérêt pour le combat à l'épée, n'hésitez pas à tester un jour les arts martiaux historiques européens. C'est vraiment très, très fun. Voilà, je trouve que c'est une pratique très intéressante.
Ok, cool. Ben, on voit ton enthousiasme. Donc, c'est une bonne recommandation. Ben, de toute façon, encore une fois, c'est du cross-training aussi, c'est bien.
Ouais, c'est ça.
Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Alors, on va prendre congé des auditeurs. À la prochaine fois, Jérémy.
Ouais, à bientôt.
Ciao, ciao.
Ciao.